et de la des rédactions officielles, si vous voulez. C'est-à-dire, en fin de compte, de la Massora. Ça, c'est un chapitre très, très important parce que, finalement, c'est un tournant essentiel dans l'histoire, justement, du texte biblique. Le mot Massora vient du verbe massar, c'est-à-dire transmettre. Transmettre, c'est aussi, si vous voulez, quelque chose qui a à voir avec la tradition, dans le sens justement d'une transmission. On trouve aussi dans le mot Massora la racine du mot Sefer, le livre, n'est-ce pas? Le livre, ce qui est rédigé, ce qui est écrit. En fin de compte, les débuts de la Massora, c'est-à-dire de la transmission traditionnelle du texte, remontent, nous l'avons vu à l'école de Yavné, au début du deuxième siècle, fin du premier siècle, début du deuxième siècle, quand on publie un texte officiel. Et ce texte officiel, il va falloir le conserver, il va falloir le transmettre. Et pour cela, donc, il y a un travail de critique qui va être effectué par les scribes qui vont avoir à leur disposition beaucoup de manuscrits et qui vont trier entre les manuscrits, choisir et retenir ceux qui sont les plus fiables. D'ailleurs, c'est ce qui se passera, c'est le même travail qui se passera au niveau des évangiles. C'est pourquoi là, il y a le même processus finalement. Les massorètes sont des scribes, ça veut dire des gens dont la tâche essentielle est de copier la Torah, de copier les textes sacrés. Et ils vont, conscients du fait que le livre qu'ils ont à copier n'est pas n'importe quel livre, mais la parole même de Dieu, n'est-ce pas ? Il faut donc faire en sorte que ce texte soit transmis le plus fidèlement possible. Et ceci jusqu'au détail près. Car on est bien conscient dans le judaïsme que, comme le dira Jésus, chaque iota, chaque trait de lettre, n'est-ce pas, a son importance. Alors, il faut codifier aussi ce qui peut-être encore n'est pas absolument fixé, par exemple la forme de certaines lettres, les signes particuliers. Autre problème aussi sur lequel les massorètes vont se pencher, c'est celui du matériau sur lequel copier la Torah. On ne peut pas copier la Torah sur n'importe quoi, n'est-ce pas ? Et à la fin de l'époque du Talmud, par exemple, la Torah n'était copiée que sur des rouleaux. Dans le judaïsme, officiellement, il n'y avait pas de codices, ça veut dire de livres au sens où nous l'entendons aujourd'hui, ça veut dire avec des pages comme ça, folio, n'est-ce pas ? Il n'y avait que des rouleaux. Et c'est seulement après le début du travail des massorètes qu'on s'est mis à publier des codices, des livres, si vous voulez. Par conséquent, là, il y a tout un ensemble de règles qui ont déjà été codifiées dans le Talmud lui-même quant à la manière justement de copier la Torah. Par exemple, on trouve dans le Talmud la description des matériaux sur lesquels la Bible doit être écrite. Ils sont précisés les travaux de préparation des pots, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour les tanner. On ne fait pas ça n'importe comment, n'est-ce pas ? Ensuite, les formes de l'écriture. Autre élément également, n'est-ce pas ? De quelles dimensions doivent être les rouleaux ? Quelle est la dimension, n'est-ce pas, des feuilles ? En fin de compte, on taille des espèces de feuilles dans le parchemin, n'est-ce pas, qui sont cousues ensuite. Alors, là aussi, la dimension des feuilles qui vont permettre, n'est-ce pas ? Il va y avoir, sur une feuille, on va écrire une colonne entière, n'est-ce pas ? Comme ça, et puis ensuite on passe à une deuxième feuille, etc., qu'on enroule et qu'on déroule au fur et à mesure, quoi. Donc ça aussi, c'est minutieusement codifié. L'espace entre les feuilles, voyez-vous, quelle distance doit séparer les deux textes ? Quelle distance il doit y avoir entre chaque lettre ? Ça aussi, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas laissé au hasard, n'est-ce pas? Bon, comment écrire le nom de Dieu? Ah, ça, c'est que c'est encore autre chose. On n'écrit pas le nom de Dieu comme ça, n'importe comment. D'ailleurs, quand on écrit un texte profane, ou même un texte, si vous voulez, qui n'est pas le texte biblique, on n'a pas le droit d'écrire le nom de Dieu. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met deux petits « yud », n'est-ce pas? On sait que c'est le nom de Dieu. Ou alors, il y a une autre manière de faire aussi, on écrit « Yakouk », c'est-à-dire on transforme les quatre lettres du nom de Dieu pour qu'on ne puisse pas reconnaître que c'est le nom de Dieu, quoi. Bon, alors, quand on écrit la Bible, quand on écrit la Torah, on est obligé d'écrire le nom de Dieu. Alors là, il faut le faire avec d'infinies précautions. On n'écrit pas le nom de Dieu comme ça. N'est-ce pas ? Le scribe qui copie les textes où apparaît le nom de Dieu doit d'abord être dans un état de pureté rituelle totale. Si, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas pur entièrement, eh bien, il s'abstient, il attend jusqu'à ce que les problèmes soient réglés. N'est-ce pas ? Bon. Deuxième chose, quand il arrive au passage où il y a le nom de Dieu, à l'endroit où il doit copier le nom de Dieu, il prend un bain rituel avant d'écrire. Bon. Quand il a écrit, il prend un deuxième bain rituel. Et puis il brise sa plume. Et il en prend une autre. Parce que la plume qui a écrit le nom de Dieu n'est plus digne d'écrire quoi que ce soit d'autre. Alors il prend une autre plume. Alors, il en fait une certaine consommation quand on écrit l'ensemble de la Bible, bien entendu. Mais c'est comme ça. Alors vous comprenez que quand on fait la commande d'un Sefer Torah, d'un rouleau de la Torah, encore aujourd'hui un scribe, parce que encore aujourd'hui les rouleaux de la Torah qui sont utilisés dans les synagogues sont écrits de cette manière-là, il ne faut pas s'attendre à être livré en 24 heures. Vous comprenez ? C'est évident. Donc ici, le nom de Dieu. Il est absolument interdit de faire des fautes, de copie. Et un excédent de 3 fautes sur l'ensemble de la Bible fait que le manuscrit est impropre à son usage. Et il doit être mis de côté. Non pas détruit, parce qu'on ne détruit jamais un texte sacré, mais il va être mis dans une guénisa, ça veut dire dans un endroit où sont rangés dans la synagogue les livres qui sont absolument inutilisables, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors, la Torah, jusqu'à nos jours, est écrite sans ponctuation, sans sous-titre, avec des séparations entre les chapitres qui sont très ténu, si on veut, et sans aucune vocalisation. Évidemment, c'est un grand problème, d'autant que, n'est-ce pas, la lecture publique de la Torah n'est pas une simple lecture, mais c'est une lecture chantée. Il y a un texte dans le Talmud qui dit ceci, « Celui qui lit la Torah sans chanter et qui étudie sans psalmodier, c'est de lui qu'il a été dit, je leur ai donné des lois qui n'étaient pas bonnes et des commandements par lesquels ils ne pouvaient pas vivre. » Donc on chante la Torah. Et on ne la chante pas n'importe comment, c'est pas une improvisation, n'est-ce pas? Il y a des mélodies traditionnelles sur lesquelles on chante la Torah. Alors quand on lit la Torah, il faut non seulement connaître la vocalisation, qu'on fait la lecture publique, n'est-ce pas? Mais il faut encore connaître la cantillation. D'ailleurs, cette cantillation n'est pas entièrement la même selon les communautés. Vous avez des mélodies qui peuvent varier. Les mélodies ashkénazes ne sont pas les mêmes que les mélodies séfarades. Les mélodies séfarades ne sont pas les mêmes que les mélodies yéménites, que les mélodies éthiopiennes, etc. Il y a les communautés ont leur propre manière de chanter la Torah, leur propre système de cantillation. Alors, vous comprenez, quand on voit, par exemple, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul qui arrive dans une telle ville, ou Jésus, dans la synagogue de Nazareth, au moment de la lecture de la Torah, on invite quelqu'un que l'on veut honorer spécialement à monter à la Torah pour faire la lecture du jour, la lecture de la paracha. Eh bien, on ne s'improvise pas dans ce domaine-là, vous comprenez? Il faut avoir étudié, il faut connaître pour pouvoir faire la lecture de la Torah. En même temps, c'est quelque chose qui, si vous voulez, qui unifie le monde juif tout entier, parce que Paul peut aller à Thessalonique, ou il peut aller à Corinthe, ou il peut aller à Éphèse, n'est-ce pas? Il entre dans la synagogue, et là, il est capable de faire la lecture de la Torah exactement comme s'il était de l'endroit, n'est-ce pas? Parce qu'il connaît justement la vocalisation et la cantillation traditionnelle. Bon. Alors, il y a aussi la pagination. La pagination, c'est quelque chose d'important parce que toutes les pages de la Torah commencent toutes par la lettre Vav. C'est ainsi disposé que ça commence tous, sauf 6 pages de la Torah qui commencent par une autre lettre. Bon. Alors, comment écrire, comment disposer la mise en page, en quelque sorte, ça les Massorètes l'étudient. Hein. Et puis aussi, comment écrire, par exemple, les textes poétiques. On ne les écrit pas, on ne les dispose pas de la même manière que les textes en prose. Et il y a là aussi une mise en page, si vous voulez, qui est une mise en page traditionnelle. Par exemple, si vous prenez le livre d'Esther, à la fin du livre d'Esther, il y a le nom des 10 fils d'Aman qui ont été pendus. Eh bien, le nom des 10 fils d'Aman obéit à une disposition, une mise en page particulière dans tous les rouleaux du texte massorétique jusqu'à aujourd'hui. Ça a été codifié aussi très attentivement par les Massorètes. 15 fois dans la Bible tout entière et 10 fois dans la Torah, il y a des lettres sur lesquelles il y a des points en dessus ou des points en dessous. Et ces points, on les retrouve dans tous les anciens manuscrits, par exemple, on les retrouve aussi dans les manuscrits de la Mer Morte. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ces points? Eh bien, on ne sait pas. C'est ça qui est formidable. On ne sait pas. Mais on les met quand même. Les scribes les mettent quand même. Alors, selon certaines explications, par exemple, on retrouve ces points chez les Samaritains également. Et d'après les Samaritains, pour les Samaritains en tout cas, ce sont des signes justement musicaux. Pourquoi seulement 15 fois? Est-ce qu'il n'y a que 15 notes, en quelque sorte, sur lesquelles on chante la Bible, c'est pas très clair, finalement. D'autres explications, c'est qu'il s'agit là, justement, de points de repère pour des exégèses, des explications, ce qu'on appelle des midrashim en hébreu. Et puis, finalement, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication véritable. Et puis, enfin, il y a des lettres qui sont particulières. Des lettres qui sont écrites différemment dans certains endroits qu'ailleurs. N'est-ce pas? Ça aussi, on ne sait pas pourquoi. Mais les scribes le rapportent fidèlement. Est-ce que, selon certaines interprétations, il s'agit de se rappeler, n'est-ce pas, que le peuple d'Israël a s'éloigné de l'idolâtrie? Quel rapport? On ne voit pas très bien, mais enfin, c'est comme ça, d'après l'explication traditionnelle, n'est-ce pas? Enfin, il y a d'autres lettres qui sont écrites plus grandes que les autres lettres, qui dépassent, par exemple, de la ligne. Pourquoi? Mystère. Et à l'inverse, vous avez des lettres qui sont en caractère plus petit. Et là aussi, les scribes les ont rapportées fidèlement. Aujourd'hui, les savants israéliens qui ont travaillé sur l'ordinateur ont découvert que certaines de ces lettres, quand on les met ensemble, nous donnent des dates. Par exemple, dans le livre d'Esther, j'évoquais tout à l'heure les 10 noms des fils d'Aman qui ont été pendus. Eh bien, dans ce texte-là, qui est un texte relativement court, il y a 4 lettres dans le nom des fils d'Aman qui sont écrites en caractères plus petits que les autres. Si vous prenez ces 4 lettres et vous les mettez ensemble, ça vous donne une date, 1946, n'est-ce pas, 20 octobre 1946, la date de la pendaison des 10 chefs nazis condamnés par le tribunal de Nuremberg. Bon, ça, bien entendu, les scribes de l'époque ne pouvaient pas le savoir, mais ils ont gardé fidèlement, n'est-ce pas, cette transmission traditionnelle, cette massora, n'est-ce pas, du texte biblique. Bon, alors, quelquefois, il y a aussi, n'est-ce pas, des lettres qui sont écrites d'une manière différente pour préserver la sainteté du nom de Dieu. Ça, c'est dans certains manuscrits seulement, pas dans tous. n'est-ce pas? Et quand les scribes, pour des raisons de ce type, effectuent des transformations, ils le mentionnent en marge, pour qu'on ne s'y trompe pas, pour qu'on ne lise pas d'une manière érodée le texte, mais ils disent c'est pour Hachem Améphoar, n'est-ce pas, le nom sacré, le nom divin, n'est-ce pas? Bon, on sait qu'on a affaire ici au nom de Dieu, et par conséquent qu'on n'a pas à s'y tromper. Ce qui, entre parenthèses, explique aussi les erreurs des témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? De ceux qui, avant eux, ont cru pouvoir lire le nom de Dieu par Jéhovah, vocaliser le nom de Dieu par Jéhovah. Bon, on sait aujourd'hui que c'était un artifice des scribes, n'est-ce pas? Pour justement empêcher que l'on prononce le nom de Dieu correctement. Donc on est certain d'une chose, on ne sait pas comment se prononce le nom de Dieu, mais on est au moins sûr d'une chose, c'est qu'il ne se prononce pas Jéhovah. Ça, c'est à servir au témoin de Jéhovah de temps en temps, ça m'amuse. Maintenant plus tellement, parce que j'ai plus tellement de temps ça, mais autrefois, quand je prenais quelques minutes pour parler avec les témoins de Jéhovah, c'était toujours, je les prenais toujours à ce piège-là, je les laissais venir, ah, Jéhovah, c'est le nom de Dieu, c'est... Hein. Bon, et puis je écrivais en disant, en hébreu, le nom de Dieu, je dis, maintenant, lisez ça. Alors, 9 fois sur 10, bien entendu, même 99 fois sur 10, le brave témoin de Jéhovah qui était en face de moi, ben, il séchait comme un misérable, puis après, je lui expliquais, je lui dis, voyez, ça, c'est le nom de Dieu, hein. Et vous voyez, cette vocalisation-là, elle est faite exprès justement pour qu'on ne puisse pas lire le nom de Dieu correctement. Ça ne peut pas se lire comme ça, pour ci, pour ça, pour ça et pour ça. Alors évidemment, ça leur mettait un coup au moral en général. Bon, alors voilà, ça, ce sont des artifices qui sont faits justement pour préserver la sainteté du nom de Dieu. Et alors, si vous voulez, petit à petit, jusqu'au XIIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque des Gaonim, on étudie ça justement en histoire d'Israël actuellement, l'époque des Gaonim, c'est-à-dire après la conquête arabe, jusqu'au XIIe siècle, c'est l'époque de la Massora. C'est finalement sous l'influence des Arabes qu'on va commencer à élaborer justement la Massora au sens profond du terme. Ce qu'on a vu maintenant, c'était la pré-Massora, celle qu'on trouve évoquée dans le Talmud, mais ça ne s'appelle pas encore vraiment la Massora, si vous voulez. Mais les massorètes, ça veut dire les scribes massorètes, qui vont faire un travail considérable de préservation du texte biblique, pousser beaucoup plus loin encore que ce que nous avons vu là, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une période qui va donc du 6e siècle jusqu'au 12e siècle, sur une période de 6 siècles, hein, qui va donc être une période extrêmement féconde. Et finalement, la Massora va aboutir alors à la publication, n'est-ce pas, la mise en forme d'une grammaire hébraïque. Finalement, au XIIe siècle, on arrivera non plus à des massorètes, mais à des grammairiens, des gens qui vont codifier, n'est-ce pas, la grammaire hébraïque, qui n'était pas vraiment codifiée jusqu'alors, n'est-ce pas, c'est curieux, n'est-ce pas. Mais par exemple, il y a plusieurs manières... Il y a plusieurs syntaxes possibles. Par exemple, si vous prenez différents livres bibliques, les livres bibliques n'obéissent pas toujours aux mêmes règles grammaticales. Par exemple, dans le Deutéronome, c'est typique. Ou bien alors dans les livres poétiques, surtout des livres comme Job ou des livres difficiles comme ça. C'est ce qui fait la difficulté de tels livres, justement, c'est que les règles de grammaire ne sont pas encore fixées. Donc, si vous voulez, chacun fait un peu ce qu'il veut. Alors là, c'est... Quand on n'a pas des règles qui sont communes, bon, c'est toujours un petit peu difficile. Remarquez, vous avez un peu la même chose avec les poètes latins. Si vous êtes déjà amusé à traduire Virgile ou des choses comme ça, vous avez vu que ce n'est pas toujours évident. Bon. Alors, en hébreu, ça va durer jusqu'au XIIe siècle. À partir du XIIe siècle, la grammaire hébraïque est fixée définitivement jusqu'à nos jours. Là, maintenant, il y a des règles très strictes. Et c'est pourquoi vous avez une évolution de la langue hébraïque. Si vous voulez, la langue des massorètes, c'est-à-dire la langue de la fin du XIIe siècle, du Moyen-Âge, si vous voulez, n'est plus exactement l'hébreu biblique. Déjà, par rapport à cela, vous avez une évolution. Bon, vous avez l'hébreu biblique, vous avez ensuite l'hébreu mishnaïque, qui est déjà un petit peu différent, hein, l'époque du Talmud, et puis ensuite, vous avez l'hébreu du Moyen-Âge, quoi, hein, qui est aussi quelque chose de beaucoup plus fixé, de beaucoup plus, en même temps, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus facile que l'hébreu traditionnel, quoi. Alors, la Massora va être développée par deux grandes familles de scribes, les Ben Asher, qui se trouvent à Tibériade essentiellement, et les Ben Nephtali, qui se trouvent en Babylonie. Ce sont des guildes de scribes qui se transmettent cet office de père en fils. des véritables dynasties de scribes, n'est-ce pas, dont les origines remontent dans la nuit des temps, mais qui vont, comment dirais-je, trouver leur épanouissement à cette époque justement des Gaonim. Les plus importants seront les Benacher, c'est-à-dire que c'est essentiellement la terre d'Israël, le pays d'Israël, qui va effectuer l'essentiel du travail des Massorètes. Les Babyloniens feront aussi ce travail, mais d'une manière beaucoup plus superficielle que ne le feront justement les gens d'Eretz Israël. Alors, c'est pourquoi justement cette période des Massorètes est aussi appelée la période des Massorètes de Tibériade. Parce que quand on parle des Massorètes de Tibériade, ce sont en fin de compte les gens de la famille de Ben Asher. Alors, qu'est-ce qui les amène à entreprendre ce travail? Eh bien, le fait que le peuple juif se trouve maintenant dans une situation de plus en plus difficile. Nous avons vu, c'est en histoire d'Israël la dernière fois, ces vicissitudes qui avaient marqué la fin de la domination byzantine, la conquête perse, reconquête byzantine, puis enfin conquête arabe. Donc automatiquement, grand bouleversement dans le monde juif. Dans le monde juif occidental, les choses ne sont pas meilleures, car l'empire romain d'Occident se désintègre sous les coups des barbares, tant et si bien que le peuple juif n'a plus accès véritable aux sources du savoir et que la connaissance biblique des juifs occidentaux diminue considérablement par rapport à ceux des orientaux. En Afrique du Nord, c'est la même chose. Les barbares sont arrivés jusqu'en Afrique du Nord, les Vandales. Puis ensuite, n'est-ce pas, l'Afrique du Nord passe entre les mains des Arabes. Donc automatiquement, c'est des grands bouleversements. Et jusqu'alors, n'est-ce pas, cette vocalisation traditionnelle et cette cantillation traditionnelle qui se transmettait de bouche à oreille, de père en fils et de rabbin à disciple, risque de se perdre par les circonstances historiques. Parce que, justement, par exemple, vous avez des communautés qui sont dans le nord de l'Espagne, par exemple, ou bien en Provence, ou bien même plus loin, en Ashkenaz, à Mayence ou ailleurs, n'est-ce pas, qui sont coupées, si vous voulez, des grands centres, qui sont coupées de la Babylonie en particulier, des grandes académies de Soura, de Pumbedita, de Naherdea, etc. Donc automatiquement, si vous voulez, là, il y a un défaut de transmission. La transmission orale ne se fait plus. La transmission orale, qui était la base de la vie juive, ne se fait plus. Alors, c'est l'existence du judaïsme qui est en cause. Car si on prive le juif de sa Torah, il n'y a plus de juif. Le juif s'assimile, devient un individu comme les autres. Alors, eh bien, justement, les Massorètes d'Eretz Israël, qui sont les plus dans une situation difficile, se disent, eh bien, il faut réagir. Et comment vont-ils réagir? Eh bien, en prenant exemple sur l'arabe. Nous sommes maintenant sous la domination de l'islam, déjà depuis quelques dizaines d'années. Et l'arabe se trouve être une langue qui est proche de l'hébreu, dans ce sens que c'est aussi une langue qui s'écrit sans voyelle. Et ça pose un problème aussi aux Arabes, dans la mesure où, maintenant, leur empire ne se limite plus à la péninsule arabique, où c'était relativement facile aussi d'avoir une transmission orale, mais nous avons un immense empire qui va de l'Espagne jusqu'en Inde. Et comment faire en sorte, si vous voulez, qu'un arabe qui se trouve à Cordoue et un autre arabe qui se trouve à Bénarès puissent lire le même Coran? Et alors les arabes ont l'idée suivante, c'est d'introduire des voyelles, un système de voyelles. Un système de voyelles qui se fait comment? Qui se fait par des points que l'on place en dessous des lettres, ou en dessus des lettres d'ailleurs, n'est-ce pas? Et qui ont une valeur de voyelle. Ce qui fait que vous pouvez maintenant vous passer d'une tradition orale. Si vous connaissez la valeur de ces points voyelles, vous pouvez lire le texte sans jamais avoir été initié à sa lecture. Et les Massorètes juifs, vont s'inspirer de ce système de vocalisation du Coran pour introduire dans la Bible aussi un système de vocalisation. Et alors, vous avez ici l'apparition de deux systèmes, ce qu'on appelle la petite Massora et la grande Massora. Le but des Massorètes, c'était la conservation du texte biblique dans toutes ses lettres et dans le moindre signe, nous l'avons vu tout à l'heure. Et ensuite, d'établir un système, si vous voulez, qui permette la compréhension de ce texte. Par exemple, les mots qui sont en rapport les uns avec les autres vont être marqués d'une astérix. Il y a aussi des indications en marge. Par exemple, on va indiquer en marge combien de fois ce mot apparaît, dans quel endroit il apparaît, dans quel autre endroit où il devrait apparaître et où il manque. Ça, ce sont, si vous voulez, non plus des aides de lecture, mais des aides de la compréhension. Et là, si vous voulez, nous avons la différence entre la petite Massora et la grande Massora. La petite Massora, c'est ce qui permet de lire le texte. La grande Massora, c'est ce qui permet de le comprendre. Ce sont des systèmes qui, donc, ont ces deux buts-là. Alors, la langue de la Massora, c'est l'araméen. Et les traités massorétiques, les traités de grammaire hébraïque, sont écrits en araméen, aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, la petite Massora va d'abord s'inquiéter de la manière d'écrire les mots. À tel endroit, tel mot doit être écrit de telle et telle manière. Il doit être écrit, par exemple, en écriture pleine ou en écriture qui n'est pas pleine, l'écriture plus restreinte, si vous voulez. Bon, changement d'orthographe, d'un passage à l'autre, on le note soigneusement. Alors, là, on commence à introduire une ponctuation. Bon, expression particulière, etc. Et puis, en fin de compte, on compte, n'est-ce pas, le nombre de lettres dans chaque verset. Et en marge, on met, n'est-ce pas, tel verset doit avoir tant de lettres. Ça, c'est déjà la grande Massora, si vous voulez. C'est plus un problème d'interprétation. On met aussi, à la fin du texte, le nombre de lettres. Il y a toujours, n'est-ce pas, quelques lignes à la fin de chaque livre de la Bible, dans lequel il y a un résumé, n'est-ce pas, du nombre de lettres. Bon, vous avez aussi des points de repère pour le copiste. C'est-à-dire que il sait que, par exemple, à tel stade, telle lettre, il est au milieu de ce livre. À telle autre lettre, il est aux trois quarts du livre. À telle autre lettre, il est aux deux tiers du livre. Et il sait qu'arrivé à ce stade-là, au milieu du livre, il doit avoir tant de lettres. Et ça lui est rappelé dans la marge. Qu'arrivé aux trois quarts du livre, il doit avoir tant de lettres. Alors avant de continuer son travail, il commence par compter toutes ses lettres pour être sûr justement qu'il n'en a oublié aucune. Sinon, ce n'est pas la peine qu'il continue. Et ainsi de suite. Voyez-vous, il y a eu tout un système extrêmement sophistiqué qui a été élaboré à Tibériade en particulier. Alors, on peut avoir à la fin d'un livre jusqu'à 10 lignes d'indications massorétiques sur les points de repère, justement, que le scribe, qui sont des repères pour le scribe essentiellement, qui ne sont pas tellement intéressants pour le lecteur. Avec ce système-là, il est aussi facile de retrouver un mot dans un texte. Par exemple, si on veut retrouver le nom de Dieu, je ne sais pas moi, l'histoire de Jacob, ben, en comptant le nombre de lettres, à partir des données massorétiques qui sont mises en marge, on le retrouve extrêmement facilement. Ou des mots rares, bon, le nom de Dieu c'est facile parce qu'il apparaît souvent, mais des mots rares, n'est-ce pas, si on veut trouver un mot rare dans la Bible, eh bien on peut justement, grâce à ces indications massorétiques. Il y a aussi en marge une explication de certains mots difficiles, qui est une explication qui est donnée en araméen. Et pourquoi aussi, à tel endroit, un même mot apparaît sous deux orthographes différentes. Dans d'autres passages également, il y a des paires de mots qui sont indiquées avec la ponctuation, ainsi de suite. Bon, ça c'est la petite Massora israélite. Ensuite on a la Massora babylonienne, qui est un petit peu plus ancienne que celle de Tibériade d'ailleurs, qui s'inquiète justement des formes d'écriture, aussi des espaces entre les colonnes, nous avons vu tout à l'heure, les plus petites et les plus grandes lettres, donc ça aussi on a la même chose que en ce qui concerne Israël. Et la Massora babylonienne commence à introduire justement des points. C'est la première qui commence à introduire une ponctuation. Jusqu'alors, l'hébreu s'écrivait sans ponctuation. Or, cette ponctuation, elle est de trois types. Premièrement, une ponctuation pour alléger le texte, toujours dans des codices, hein, jamais dans le texte qui est lu dans la synagogue. Dans la synagogue, il est tel qu'il est sorti des mains de Moïse. Hein, on le bouge pas d'un iota. Mais ça, c'est pour l'étude. Hein, on commence à introduire des codices, comme ça. Et alors, là, donc, c'est pour l'étude. Alors, on introduit une ponctuation pour rendre le texte plus léger, plus facile. Deuxième innovation des massorètes de Babylonie, ce qu'on appelle les théamim. Les théamim, c'est ce qu'on appelle les accents massorétiques. Les accents massorétiques sont des accents très ténus, n'est-ce pas, qui se placent à la manière babylonienne au-dessus des lettres et qui servent pour la cantillation. Alors, il y a eu une grande controverse ces derniers temps sur les accents massorétiques avec une chercheuse française juive qui était musicologue en même temps et qui a cru pouvoir attribuer aux accents massorétiques des valeurs musicales, des valeurs de notes, n'est-ce pas ? Et de fait, les théamim, les accents massorétiques, sont des points de repère pour la cantillation. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas la cantillation traditionnelle, eh bien, peut l'apprendre à partir justement d'un texte d'étude. Et quand il passera ensuite au texte officiel de la synagogue, il aura mémorisé, si vous voulez, la cantillation sans l'aide d'un baal massora, comme on appelle, ça veut dire de quelqu'un qui vous initie à la cantillation traditionnelle. Cette interprétation des théamim est très contestée. Je sais que Madame Ventura, elle s'appelle, je crois, Chaïk Ventura, vient de recevoir un prix de l'Académie française pour ses travaux. C'est pas, je crains malheureusement que l'Académie française soit complètement trompée, car d'après les spécialistes israéliens que j'ai consultés sur ce sujet, ça fait déjà un certain nombre d'années, ils disaient qu'elle s'est complètement trompée, cette dame Ventura, sur la valeur des accents massorétiques. Les accents massorétiques ne sont pas des notes musicales. Jamais. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on ignorait tout de la notation musicale à cette période-là. Ce n'est qu'à partir du grégorien, n'est-ce pas, qu'on commence à avoir une notation musicale. Par contre, les accents massorétiques servent dans la cantillation, mais non pas en tant que note, mais en tant que point de repère. Par exemple, on sait qu'à tel signe indique que sur cette syllabe, on doit élever la voix. Au contraire, que sur telle syllabe, on doit baisser la voix. Qu'à ce stade-là, on doit laisser un silence. Qu'à tel autre endroit, on doit accélérer dans un autre endroit, on doit changer de registre. Ce sont des indications musicales, mais qui n'ont pas valeur de note. C'est un autre système de vocalisation. Alors, c'est un système intermédiaire entre notre système, le système de notation musicale moderne, qui nous vient justement du grégorien, c'est pas, et si vous voulez, qui n'est pas entièrement, si vous voulez, libéré d'une transmission orale. Et finalement, la musique de la Bible, pour reprendre l'expression de Madame Ventura, reste encore jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, une musique qui nous est transmise par une tradition orale. Et finalement, les théamim, les accents massorétiques, sont une aide, mais ne peuvent pas se substituer entièrement à une initiation orale, si vous voulez, par un baal massora, par quelqu'un qui connaît la. Il est certain que, par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait que les accents massorétiques sans avoir été initié oralement, eh bien, serait incapable de faire une cantillation correcte. Alors ça, c'est quelque chose que les massorètes de Babylonie ont introduit. Et puis les massorètes de Babylonie ont introduit un troisième système de ponctuation qui, lui, alors, est un système de voyelles. Ils ont repris, donc, comme je disais tout à l'heure, le système arabe de voyelles qui consistait à placer des points voyelles, des points ayant valeur de voyelle au-dessus des lettres. C'est-à-dire que, si vous voulez, au lieu de lire une syllabe, comme nous le faisons nous, ça veut dire de gauche à droite, n'est-ce pas, B et A fait A, n'est-ce pas, on lit, n'est-ce pas, on ajoute, n'est-ce pas, la voyelle, parce qu'elle est dans le mot, les sémites, c'est-à-dire les arabes et les juifs, bon, c'est dans une notation babylonienne, lisent de bas en haut, la syllabe de bas en haut, ça veut dire qu'ils partent de la consonne du bas et puis ils lisent en haut. Hein. Alors c'est ça qui fait la difficulté de la lecture aujourd'hui de l'hébreu aussi. Quand on passe, nous qui sommes habitués à une lecture, n'est-ce pas, une lecture horizontale, qu'on passe à une lecture verticale, ça pose un problème mental essentiellement. Pas. Et alors, quand on commence à lire l'hébreu, on annonce lamentablement, tu as fait cette expérience un peu, n'est-ce pas, parce qu'on a un problème, si vous voulez, mental de lire de bas en haut, parce qu'on a pris la vocation de Tibériade et pas celle de Babylonie. Alors, ça c'est un autre système, bien entendu, tout à fait différent d'une autre, qui répond à une autre mentalité, à un autre contexte, à une autre civilisation, à une autre culture. Alors ça, c'est les Babyloniens. Les gens d'Eretz Israël ont repris ce système. Mais alors, eux, ils ont été un petit peu plus intelligents, si j'ose dire. Ils se sont dit, mais ce système babylonien, qui consiste à placer des points voyelles au-dessus des lettres, il a un grave défaut. C'est qu'on peut justement confondre les points voyelles avec les théamim, avec les accents massorétiques, puisque tous les deux se situent au-dessus des lettres. Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent, ont dit les gens d'Eretz Israël, de garder les théamim, donc au-dessus des lettres, et de placer les points voyelles en dessous des lettres. Comme ça, ça éviterait la confusion. Et c'est ainsi que la Massora d'Eretz Israël s'est différenciée de la Massora de Babylonie par le fait que les points voyelles, au lieu d'être situés au-dessus des lettres, comme c'était le cas en Babylonie, ont été placés en dessous des lettres en ce qui concerne Israël. Alors, la grande Massora consiste à compter combien de fois le même mot revient dans tel texte, sous quelle forme, etc., à quels endroits. Et finalement, là, le travail des Babyloniens comme des gens d'Eretz Israël est à peu près semblable parce qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas 36 manières de voir les choses. Bon, ce qu'on fait aussi, c'est que dans ces versions d'études qui vont être publiées, on introduit aussi ce qu'on appelle les targums. Le targum, c'est la version araméenne de la Bible. Targum, ça veut dire en hébreu traduction, sous-entendu traduction araméenne. À l'époque du Talmud, ça veut dire à l'époque de la Gemara, pas à l'époque de la Mishnah. À l'époque de la Gemara, ça veut dire de la deuxième partie de l'époque du Talmud, l'époque des Amoraïm qu'on a vu la dernière fois. La langue d'étude et la langue courante, c'est l'araméen. L'hébreu a été détrôné par l'araméen. Alors ça, c'est très important de le préciser parce que souvent on croit que l'araméen était une langue qui était beaucoup plus ancienne. Et que, par exemple, déjà à l'époque de Jésus, on employait l'araméen. Bon, c'est vrai qu'on employait l'araméen déjà à l'époque de Jésus, mais les deux langues, si vous voulez, étaient utilisées aussi. Et ça, c'est ce que les manuscrits de la Mer Morte nous ont permis de redécouvrir. On ignorait jusqu'à quel point l'hébreu était utilisé à l'époque du Nouveau Testament. Et on a redécouvert, justement, que l'hébreu était une langue parlée encore à l'époque de Jésus. On a fait la confusion, si vous voulez. On a projeté sur l'époque de Jésus une situation qui est celle de l'époque des Amoraïm et des Gaonim, par temps. Point. Mais à l'époque de Jésus, on employait pour les choses banales, si vous voulez, l'araméen. Bon, comme le disait le professeur Flusser, quand je l'ai interrogé une fois à Jérusalem, il disait, dans le fond, c'est un petit peu le même problème qu'en Suisse allemande. En Suisse allemande, la langue officielle, c'est l'allemand, le bon allemand, le pur allemand. Dans une école, vous allez à l'école, on enseigne les mathématiques, l'histoire, la géographie et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, en bon allemand. Et les enfants qui sortent des écoles doivent être capables de parler et d'écrire l'allemand, l'allemand pur, officiel, correctement. Mais quand les enfants vont dans la cour de récréation, ils parlent dans un patois qu'on appelle le Swiss Dutch, n'est-ce pas, qui est un patois typique, n'est-ce pas, des Suisses allemands, qui ressemble à l'allemand, mais qui n'est pas exactement l'allemand. Enfin, mais, par exemple, donc dans tout ce qui est officiel, l'école, les actes officiels, les journaux, la radio, l'église, n'est-ce pas, quand on va dans une église, la prédication, et tout se fait en allemand correct. Mais pour la vie courante, quand ils vont faire leur courses dans les magasins ou au marché ou qu'ils se rencontrent dans la rue, eh bien les Suisses allemands se parlent en Suisse Deutsch. Ils passent d'une langue à l'autre comme ça très facilement. Eh bien, si vous voulez, en Israël, à l'époque de Jésus, c'était la même chose. Dans tout ce qui était officiel, c'était l'hébreu, bien entendu dans la synagogue, bien entendu dans les tribunaux, dans les écoles, dans tout ce qui avait un caractère un petit peu officiel. Donc tout ce qui touchait à la parole de Dieu était fait en hébreu. Mais pour demander un kilo de patates, enfin les patates n'existaient pas à cette époque-là, on ne connaissait pas, mais enfin, je sais pas moi, faire son marché, vous demander des nouvelles du petit dernier, on disait ça, ça se faisait en araméen. Et c'est pourquoi vous voyez à la fois dans le Nouveau Testament des traces d'aramaïsme, par exemple, même dans la bouche de Jésus sur la croix, n'est-ce pas ? Et puis vous voyez à la fois dans un autre évangile, c'est dit en hébreu correct. Le psaume 22 est cité. Bon. Alors, si vous voulez, c'est l'époque de Jésus, l'époque où on commence à, malgré tout, si vous voulez, pour ceux qui ont un peu de mal à maîtriser l'hébreu, on commence à un processus de targumisation, on appelle ça. La targumisation, c'est donc, si vous voulez, une traduction de la Bible en araméen. Mais cette traduction, elle ne doit pas, absolument pas, être mise sur le même plan que le texte officiel, n'est-ce pas ? C'est une traduction qui doit être une traduction uniquement orale. Vous trouvez ça, d'ailleurs, ça commence avec Ezra, au retour de l'exil, quand les gens ne parlaient plus très bien l'hébreu, n'est-ce pas ? Les scribes faisaient la lecture publique de la Torah, et ils expliquaient ensuite, n'est-ce pas, ce qui venait d'être lu verset par verset. Ça veut dire qu'ils en faisaient une traduction-explication. Je dis bien une traduction-explication. Ce n'est pas une traduction mot à mot, mais c'est en même temps un commentaire, si vous voulez, une traduction-commentaire. Alors, on a pris l'habitude, à partir de l'époque de la fin du Deuxième Temple, et puis pendant toute la période du Talmud, dans le culte de la synagogue, à partir du moment où, justement, après l'époque des Tanaïm, l'hébreu est devenu de moins en moins une langue parlée, on a pris l'habitude de faire une lecture de la Torah qui soit targumisée. C'est-à-dire que on avait le lecteur, n'est-ce pas, qui faisait la lecture de la Torah à partir du texte hébreu, et vous aviez à côté de lui, n'est-ce pas, ce qu'on appelait un meturgeman. Ça veut dire un traducteur. On traduit ça, le grec l'a traduit par le paraclète, n'est-ce pas ? C'est très intéressant d'ailleurs, cette coutume du meturgeman, qui retraduisait, verset par verset, en araméen, avec explication, ce qui venait d'être lu. C'est le rôle du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? De nous traduire en quelque sorte les choses de Dieu. Le Saint-Esprit, le meturgeman, celui qui va nous rendre explicites, n'est-ce pas ? Pour que ce soit compris, le but du meturgeman, c'est de faire en sorte que ce qui est lu dans la Torah soit compris. Alors, il en donne la traduction, il en donne l'explication. Et c'est le rôle du Saint-Esprit, nous dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous expliquera les choses à venir, il vous expliquera les choses cachées, les choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais un jour vous serez capable de les comprendre. Quand le paraclète, alors c'est pour ça qu'on traduit le consolateur, je ne suis pas très heureux avec cette traduction-là, n'est-ce pas ? Parce que là, c'est un terme technique de l'hébreu, n'est-ce pas ? Le paraclète, c'est le meturgeman, c'est celui qui... C'est pas seulement... Bon, le consolateur, c'est un très, très, très beau... ça veut dire beaucoup de choses aussi, mais si vous voulez, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui rend explicite, n'est-ce pas ? Le texte, les paroles de Jésus, en quelque sorte. Hein, comme le meturgeman le fait pour les paroles de la Torah. Donc nous avons ici des targoums, qui sont d'abord libres, n'est-ce pas, selon le génie du meturgeman, il explique à sa manière. Bon. Puis, dans le judaïsme, c'est toujours comme ça que ça se passe, il y a toujours, n'est-ce pas, une standardisation qui se fait au bout d'un temps. Et finalement, le targoum n'est plus laissé à la fantaisie du meturgeman, mais là aussi, il y a une targoumisation traditionnelle qui se transmet de génération en génération par le même chemin de la Massora. Et quand on va avoir, à l'époque des Massorètes, des textes officiels qui vont être publiés, Avec les travaux des Massorètes, la petite Massora et la grande Massora, on publie à côté du texte hébreu un targoum araméen. Un targoum par rapport auquel on passe au-dessus du tabou qui faisait que la traduction araméenne, la targoumisation araméenne, je n'emploie pas le mot traduction, c'est pas exactement une traduction, c'est une traduction-explication. Eh bien, ne devait pas être écrite, devait être orale, transmise oralement. Mais de la même manière, n'est-ce pas, qu'on se sent obligé, à cause des circonstances historiques dans lesquelles on vit, d'introduire ce système de Massora pour rendre le texte explicite à ceux qui ne sont coupés des centres du judaïsme, n'est-ce pas, centre d'Eretz Israël et le centre de Babylonie. De la même manière, n'est-ce pas, pour ne pas perdre la targumisation, eh bien, on se sent obligé d'écrire, de mettre noir sur blanc le targum. Alors nous avons plusieurs targoums qui nous sont parvenus. Le plus célèbre d'entre eux est le targoum d'Onkelos, c'est le plus complet. Mais nous avons d'autres targoums, le targoum de Yohanan ben Uziel. Bon bref, on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera plus précisément justement des targoums. Alors, la Massora va aussi... publier, donc les Massorètes vont publier des rédactions officielles de la Bible. Ce processus-là, on le trouve déjà très élaboré, par exemple dans les documents de la Bible qu'on trouve dans la Génisa du Caire, de la synagogue du Vieux Caire, au 9e siècle avant Jésus-Christ. On voit que déjà cette période-là, c'était très avancé. Alors, les Massorètes se transmettent cette tradition de génération en génération, et chaque génération ajoute sa pierre de touche, si vous voulez, à ces travaux, justement-là. Les enrichit, et c'est pourquoi nous avons une tradition massorétique d'une richesse infinie qui s'étend du 6e au 12e siècle, donc sur six siècles environ, n'est-ce pas, des travaux qui vont aboutir alors à scruter la langue hébraïque jusque dans les moindres détails, le moindre souffle, n'est-ce pas, avec des grammaires extrêmement élaborées. Quand on arrive, par exemple, aux grammairiens espagnols du 12e siècle, c'est prodigieux, quoi, c'est prodigieux. Alors, il existe différentes écoles qui ont des relations entre elles ou qui n'ont pas de relations entre elles. Hein? Si bien qu'il y a parfois des différences aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas finalement une seule Massora, il y a des rédactions officielles. Hein? Alors évidemment, les Massorètes ont entre les mains le texte officiel qui a été publié par Yavné. C'est à partir de ce texte-là qu'ils travaillent. Alors là, nous avons quelque chose qui est semblable. Après le XIIIe siècle, il va y avoir une plus grande liberté, n'est-ce pas ? Les éditeurs vont pouvoir arranger la Bible un petit peu à leur goût, d'autant que maintenant, on va aboutir deux siècles plus tard à l'invention de l'imprimerie, qui a un certain nombre de contraintes aussi, n'est-ce pas ? Bon. Alors là, il y a une certaine latitude qui naît. Ce qui fait que l'étude de la Massora à partir de textes qui datent du XIIIe siècle n'est pas toujours simple. Hein, ça, il y a des travaux extrêmement complexes qui sont effectués essentiellement par des juifs, n'est-ce pas, sur la Massora. Et puis alors, la première édition de la Bible imprimée est l'édition de Jacob Ben Chaim, qui est éditée à Venise au XVIe siècle. Et qui comprend justement la Massora, toutes les données de la Massora. Jacob Ben Chaim a essayé de rassembler, n'est-ce pas, dans son édition, qui a voulu un petit peu, si vous voulez, l'équivalent de la Bible de Gutenberg, c'était l'équivalent juif de la Bible de Gutenberg, avec, si vous voulez, toutes les richesses que les Massorètes avaient accumulées pendant l'histoire. Si bien que cette Bible de Jacob Ben Chaim de Venise, n'est-ce pas, c'est un chef-d'œuvre, encore une fois, c'est l'équivalent, au point de vue richesse typographique, de la Bible de Gutenberg. Alors, le but de Jacob Ben Chaim est le même que celui des Massorètes, publier là une Bible qui soit la Bible officielle du judaïsme, avec toutes les richesses accumulées au long des siècles. Alors, bien sûr, il a dû prendre en compte les différentes tendances des différentes écoles des Massorètes, essayer de faire une harmonisation entre ces différentes traditions quand elles étaient un petit peu différentes les unes des autres. Ce qui fait que là, nous avons effectivement, avec la Bible de Yaakov Ben Chaim, une édition dont on peut dire qu'elle est une édition officielle. Et les éditions qui vont être publiées ensuite sont pratiquement toutes basées sur cette édition de Venise, quoi, ce qu'on appelle l'édition de Venise du XVIe siècle. Alors, si vous voulez, quand on prend par exemple un texte biblique comme la Kittel, qui est aujourd'hui l'édition officielle, si vous voulez, de tous les spécialistes, ou alors celles qui en sont dérivées, c'est-à-dire que vous achetez une Bible hébraïque dans une librairie en Israël, ou vous la commandez à la société biblique, eh bien, finalement, elle est basée sur l'édition de Venise, en gros, quoi. En gros, ça, dans sa présentation, etc. Alors, justement, pour rendre ce texte plus facile, Yaakov Ben Chaim introduit ce que les chrétiens aussi avaient élaboré entre-temps, à savoir la division en chapitres et en versets, ce qui n'existait pas jusqu'alors, et puis aussi alors des titres latins, qui ne sont pas non plus dans les manuscrits originaux. Alors, les titres hébraïques sont toujours le premier mot du livre. Ça, c'est une coutume de tous les livres anciens, aussi bien chez les Grecs que chez les Romains, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Par exemple, ce qu'on appelle en Genèse s'appelle Bereshit, parce que c'est le premier mot, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Le deuxième livre que nous appelons l'Exode s'appelle en hébreu Shmot, les noms, parce que ça commence par Vaïl et Shmot, voici les noms des 12 fils de Jacob qui descendirent en Égypte. Le troisième, Vaïkra. L'Éternel appela Moïse dans l'attente de la rencontre, n'est-ce pas ? Donc il appela, Vaïkra, etc. Alors, en sous-titre, Yaakov Ben Chaim a ajouté les noms latins qui étaient donnés par les chrétiens. Par exemple, vous trouvez, vous prenez par exemple n'importe quelle Bible aujourd'hui hébraïque, comme je disais, vous achetez ça à la société biblique ou dans une librairie en Israël, vous avez donc en hébreu Bereshit et en dessous vous avez Genesis en latin, n'est-ce pas ? Exode, vous avez donc Shmot et vous avez en dessous Exodus, et ainsi de suite, Leviticus, etc. Hein ? Donc si vous voulez, les noms qui sont donnés par les chrétiens. Parce que finalement, le but aussi de Yaakov Ben Chaim, c'était quand même l'époque aussi de la réforme, un petit peu de l'humanisme, de la réforme, de la renaissance, le retour aux sources, n'est-ce pas ? On entendait bien que le judaïsme aussi fasse entendre sa voix dans ce concert de la renaissance et de l'humanisme. D'ailleurs, vous savez que les rabbins joueront un rôle non négligeable dans la réforme, puisque Luther étudiera avec un rabbin pour apprendre l'hébreu, pour pouvoir traduire la Bible en allemand à partir de l'hébreu, et non plus à partir de la Vulgate, à partir du latin, comme on l'avait fait jusqu'alors. N'est-ce pas ? Alors, donc ici, il y a cet extraordinaire chef-d'œuvre que fut l'édition de Venise, n'est-ce pas, de Yaakov Ben Chaim, qui est aujourd'hui la rédaction officielle, si vous voulez, de tous ceux qui étudient la Bible en hébreu, à partir justement de tous les travaux des Massorètes. Voilà, si vous voulez, en gros, ce que je voulais dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non, mais un certain nombre qui sont gardés jalousement, comme la Bible de Gutenberg, quoi. C'est exactement la même chose. Oui. Alors, il y a des éditions qui en sont dérivées, quoi. Alors là, nombreuses, quoi, très très nombreuses. Bon, qui ne sont pas exemptes d'erreurs non plus, parce que c'est pas parce qu'une Bible est imprimée qu'elle est plus fidèle obligatoirement qu'une Bible écrite à la main. Les typographes peuvent faire des erreurs de copie aussi. Et c'est pourquoi, justement, il y a tout ce travail de base critique dont nous parlions il y a quelque temps de cela, qui consiste à étudier les manuscrits, tant les manuscrits avec à la main que les textes imprimés à partir du XVIe siècle, les textes anciens imprimés à partir du XVIe siècle. Puis on a des textes indépendants, par exemple la synagogue du Vieux Caire, dont je parlais tout à l'heure, a permis de découvrir des documents écrits à la main, alors de la Massora, mais qui sont différents de l'édition de Blomberg, l'édition de Venise, parce qu'il n'y a pas eu cette harmonisation qu'a fait Yaakov Ben Chaim dans ces éditions-là, quoi. Bon, tout ça, c'est des travaux spécialistes, hein. Ça veut dire que pour le lecteur moyen, tout ça, 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 ça. Bon, les différences entre le Caire et puis Venise, ça ne changerait pas un iota de la signification du texte. Hein. Mais c'est pour vous dire, si vous voulez, j'insiste là-dessus pour montrer le soin avec lequel justement les Juifs ont gardé le texte biblique et l'ont transmis. Quoi. C'est certain qu'il n'y a aucun texte dans l'histoire de l'humanité qui soit un texte aussi sûr que le texte biblique. Quoi. Ça, c'est absolument indiscutable. Même les athées les plus endurcis sont obligés de reconnaître quoi, que là, le texte biblique est d'une fidélité extraordinaire. Quoi.
On a complètement perdu les traces des deux familles,
Ben Asher et Ben Naphtali. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Dans le brassage de l'exil, bien sûr.
Ah, ouais.
Oui. Oui. Jusqu'à cette époque-là, c'était possible, quoi. Hein. Ah, ouais. Mais. Oui, après, ça s'est dilué, c'est... quoi.
Mais est-ce qu'il pouvait y avoir des. Par exemple, peut-être qu'il y a eu des Arabes encore qui. Est-ce qu'il pouvait y avoir des Juifs qui voyageaient d'une école à une autre ?
Alors ça, on verra dans l'histoire d'Israël, justement, la prochaine fois. De fait, ça, c'est une très très bonne question. Alors, le problème n'était pas simple, parce que le monde ancien, après la conquête musulmane, était coupé en deux. Il y avait d'un côté le monde musulman, de l'autre côté ce qu'on appelait le monde chrétien. Or, ces deux mondes-là étaient en guerre, constants l'un contre l'autre. Et les Juifs étaient pris en sandwich entre les deux. Ce n'était pas une situation facile, justement. D'où, justement, la raison pour laquelle les massorètes se sont mis au travail. Parce que, justement, il fallait pouvoir faire passer à ceux qui étaient dans les pays chrétiens. Les grands centres de rayonnement du judaïsme étaient dans les pays musulmans. C'était Israël et la Babylonie. Donc, le monde juif qui était du côté chrétien était complètement dans les ténèbres, dans l'obscurité, quoi. Alors, il fallait, justement, pouvoir communiquer avec eux. Or, justement, les Juifs étaient neutres. Ils n'étaient ni pour les uns ni pour les autres, en fin de compte, entre les musulmans et les chrétiens. Ils souffraient aussi bien des uns que des autres. Et en même temps, comme ils étaient neutres, ils étaient des intermédiaires faciles. C'est-à-dire que les musulmans avaient de temps en temps besoin quand même de communiquer avec les chrétiens autrement que sur un champ de bataille. Bon, comme ils étaient en guerre officiellement, ils ne pouvaient pas prendre contact avec les chrétiens. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ben, ils utilisaient les Juifs, puisque les Juifs étaient neutres. Et les chrétiens de même. Il y a des moments où les chrétiens devaient communiquer avec les musulmans, pour des raisons commerciales, pour des raisons diplomatiques, pour des échanges de prisonniers, pour des choses comme ça. On utilisait les Juifs. Et c'est comme ça que les Juifs ont pris le monopole, à cette période-là, du commerce entre les deux mondes. Parce qu'ils pouvaient passer pratiquement impunément d'un monde à l'autre. C'était très relatif, d'ailleurs, cette impunité. Parce que de temps en temps, ils tombaient sur des gens mal embouchés qui... Bon. Mais enfin, avec une relative impunité. Donc ils étaient les intermédiaires entre les Juifs, entre les musulmans et les chrétiens. Et alors, s'est développé à ce moment-là tout un système dont on parlera la prochaine fois plus longuement, qu'on appelle le système des responsa. Responsa est au pluriel en latin. C'est-à-dire que, par exemple, on a un cas typique... Dans l'histoire du judaïsme, c'est dans une communauté de France, justement, qui était sous la domination des barbares à cette période-là, c'est pas, après la, vers, bon, disons, oui, disons, à l'époque de Charlemagne, grosso modo, enfin un petit peu avant, disons. Bon, dans les synagogues d'Occident, bon, il y avait le service traditionnel, l'invocation, la proclamation du nom de Dieu, l'invocation des anges, etc. Et la bénédiction pour la Torah, lecture de la Torah, le drash et les prières finales. Bon, ça c'est la liturgie de la synagogue. Mais pour ces différentes parties de l'office de la synagogue, quelle prière fallait-il lire ? Finalement, ça, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Hein. Et puis, dans quel ordre les lire ? Bon. Alors, qu'est-ce qui se faisait ? Quand on recevait comme ça un émissaire qui venait d'Eretz Israël, par exemple, ou de Babylonie, qui venait nous vendre des soieries, ou bien des épices, qui venait d'Inde ou d'ailleurs, n'est-ce pas ? Eh bien, on lui disait, quand tu retourneras là-bas, quand tu retourneras à Soura, par exemple, l'académie de Soura, qui était la grande, parce que Pumbedita est tombé un petit peu en oubli à la période des Gaonim, la grande académie, c'était Soura. Tu demanderas là-bas aux savants. Nous, on a ce problème. Quelle prière il faut lire, par exemple, pour l'invocation du nom de Dieu ? quelle prière faut lire ensuite pour la sanctification du nom de Dieu, etc. Et dans quel ordre ? Nous, on s'y perd, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors le gars retournait, et puis il allait voir le Gaon de Soura, et puis il disait, voilà, j'ai une question de communauté X là-bas en Provence. Et cette question porte justement sur l'ordre, sur les prières à dire dans la suite synagogale, et dans quel ordre. Alors le Gaon mettait ça devant ses étudiants. Il disait, ben, travaillez là-dessus, travaillez la question. Ça prenait un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans. Et puis après, on ramenait ça au Gaon. Alors le Gaon, finalement, prenait la décision finale, à partir des travaux qui avaient été faits. Et puis, il envoyait un émissaire à la communauté qui avait demandé ça. Voilà la réponse. Et le Gaon de Soura, à cette période-là, a fait un énorme volume, disant, voilà les prières qu'il faudra dire dans chacune des étapes de l'office de synagogue, pour un Shabbat normal, pour les fêtes, pour Rosh Hashanah, pour Kippour, pour Hanouka, pour Purim, pour Pessah, etc., pour les mariages, pour les décès, pour les Brit Mila, les circoncisions, pour, etc., etc. Voilà. Et il a renvoyé ça là-bas, à la communauté provençale. Et les Provençaux ont trouvé ça génial. Puis les autres communautés disent, vous ne pourriez pas nous envoyer une copie aussi de cet ordre qui a été donné? Et ordre en hébreu, ça se dit sidour. Et aujourd'hui, les juifs du monde entier ont les mêmes prières pour l'office synagogal, qu'ils soient en Allemagne, qu'ils soient au Yémen, qu'ils soient en Inde, qu'ils soient en Chine, etc. Ils ont le même. On appelle ça le sidour. Et bien ça vient justement du travail qui a été fait à Soura à l'époque des Gaonim sur une question qui a été posée par une communauté provençale. Voilà comment ça se passait. Et c'est comme ça, par ce système de réponse. Alors ça pouvait être sur des questions beaucoup plus triviales. Hein. Je ne sais pas, moi, par exemple, voilà, on a un bonhomme ici dans notre communauté qui est parti justement comme marchand en Inde, puis ça fait 10 ans qu'il n'est plus revenu, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. On n'a plus jamais entendu parler de lui, on n'a plus de nouvelles. Bon, il a une femme ici, avec 3 enfants, crève de faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on l'autorise à se remarier, considère que son mari est mort, ou bien quoi? Ou est-ce qu'il faut qu'ad vitam, elle n'ait pas le droit de se remarier parce qu'elle ne sait pas si son mari est mort ou pas? C'est un problème. Et puis si le mari revient après, 20 ans après, et puis qu'il trouve... C'est des problèmes. Mais c'est des problèmes concrets qui se posaient à ces communautés. Alors ils ont envoyé des émissaires aux académies de Babylonie, pour demander justement une législation dans ces domaines-là. Et quand on avait légiféré, ça faisait jurisprudence après, hein, dans toutes les autres communautés du monde entier. Et c'est comme ça que, sans une papauté, en quelque sorte, exactement comme le catholicisme, eh bien, le judaïsme a réussi à être un tout unifié, alors qu'il était dispersé sur toute la surface de la Terre. Mais c'était un système souple, c'était un système où volontairement on demandait donc des directives, quoi, à ceux qui étaient considérés comme les sages, quoi, ceux qui étaient capables de répondre à ça, quoi. Voilà.